Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Gittin, page 15, Daf Tetvav. Bonne écoute et bon limoud.
Kevinati lebiti, qu'on donne ma broche à ma fille. Vehi bishne masar mané, et cette broche en or valait 12 mané. Umeta, par la suite elle est morte, vikimu chachamim et dvarea, et les chachamim ont accompli ses paroles. Nous voyons donc bien que sans acte d'acquisition, un mourant peut faire un leg. Amar lahem, Rabbi Elazar a répondu au Chachamim, Bene Rochel te kabremimem. Quand tu me ramènes les enfants de Rochel, je les maudis que leur mère les enterre. En d'autres termes, comme la Gemara l'explique là-bas, ils étaient considérés comme des mécréants parce qu'ils laissaient pousser dans leur vigne des ronces. Rabbi Elazar le considérait comme un mélange, c'est-à-dire un mélange interdit de plantes qui poussent ensemble, au même titre que des légumes qui pousseraient dans une vigne. En tout cas, puisqu'il s'agissait de Rechaïm, il est possible que les Chachamim n'ont pas vérifié ce testament, s'il était légal ou non, et on ne peut pas apporter de preuve de là-bas, puisque la chose n'a pas été vérifiée correctement. En tout cas donc, la discussion entre les Chachamim et Rabbi Elazar est, est-ce que quand un mourant fait un cadeau, est-ce qu'il faut encore un acte d'acquisition pour que ce testament soit valable ou non? Alors revenons à notre Braïta. Tana Kama, le premier auteur de la Braïta, pense comme Rabbi Elazar, qui dit que même pour le don d'un mourant, il faut un acte d'acquisition. Puisque cet argent a été transmis à l'émissaire sans acte d'acquisition, quand on lui a dit « amen », ce n'est pas comme si on lui a dit « acquiert pour lui ». Finalement, donc si cette personne est décédé par la suite, l'argent retourne à l'envoyeur. Rabbi Nathan, Rabbi Yaakov, Namik, Rabbi Lazar, et Rabbi Nathan, Rabbi Yaakov pense aussi comme Rabbi Lazar, donc que pour le don d'un mourant, il faut un acte d'acquisition. Afal gav demit, et même si l'envoyeur est mort, lo amrinal mitzvah lekayem divrei amet, on ne dira pas qu'il y a une mitzvah d'accomplir les dernières volontés d'un mort, et par conséquent, cet argent retournera à l'envoyeur. Veyeh shomrim, et les yeh shomrim pensent que Rabbanan comme les chachamim. Selon eux, les paroles du mourant ne nécessitent pas un acte d'acquisition. Une fois que cet argent donc a été transmis à l'émissaire, il a été acquis pour le destinataire. Cet argent donc sera transmis au destinataire ou le cas échéant à ses héritiers. Rabbi Yehuda Nasi, Shemar Mishum Rabbi Meir, qui Rabbi Elazar. Rabbi Yehuda Nasi, au nom de Rabbi Meir, pense comme Rabbi Elazar, qui dit que pour le don d'un mourant, il faut aussi un acte d'acquisition. Mihu, cependant, Hechad Mit. Si l'envoyeur est mort, Amrinal mitzvah le kaim divramet, nous disons qu'il y a une mitzvah d'accomplir les paroles du mort, et dans le cas donc où l'envoyeur est mort, ce cadeau reviendra au destinateur, ou le cas échéant, à ses héritiers. Vechachamim orim yachloku, les chachamim disent qu'ils partageront, c'est-à-dire les héritiers du destinataire et l'envoyeur ou ses héritiers, mais savkalehu, ils sont en doute, à savoir si pour le cadeau du mourant, il faut un acte d'acquisition, et aussi s'il y a une mitzvah d'accomplir les paroles du mort. Vekanamru, et en Bavel, les Chachamim ont dit, Shuda Adif, si de toute façon nous ne savons pas quoi faire, on préférera que ce soit l'émissaire qui décide la chose en fonction de son évaluation. Rabbi Shimon Anassi, Maaseh Astar Lashmuinan, et Rabbi Shimon Anassi nous a enseigné l'histoire qui a eu lieu alors que lui-même y avait participé. Ibaya Lehu, la Gemara s'est posée la chose suivante. Rabbi Shimon Hanassi, Nasihu, est-ce que, quand nous parlons de Rabbi Shimon Hanassi, est-ce que c'était effectivement un prince? Ou Mishme de Nasi Kamar, ou bien lui-même n'était pas chef spirituel, parce que nous n'avons jamais entendu qu'il y avait un chef spirituel nommé Rabbi Shimon, mais il l'a parlé au nom du chef spirituel. Tashma, la Gemara dit, viens écoute, Dama Rav Yosef, Halacha ke Rabbi Shimon Hanassi. L'Halacha est comme Rabbi Shimon Hanassi. Apparemment, donc, Rabbi Shimon était effectivement un chef spirituel. La Gemara demande, Va'adain tibelach nasihu, on peut quand même se poser la question, est-ce que Rabbi Shimon était effectivement chef spirituel, comme le dit Rabbi Yosef, ou de Kamar Mishmeh de Nasi, ou bien Rabbi Shimon a simplement rapporté une histoire au nom du chef spirituel, mais Rabbi Yosef a simplement repris le langage de la Braïta. Tekou, la Gemara dit que c'est une question qui reste sans réponse, et Léo Anavi répondra. Goufa, la Gemara reprend le passage qui a été enseigné plus haut. Amar Rabbi Yosef, halakha ki Rabbi Shimon Hanassi. L'halakha est comme Rabbi Shimon Hanassi, qui dit qu'il s'est passé une histoire où lui-même était émissaire, dans le cas où donc un mourant lui avait donné de l'argent en lui disant « transmets-le à un tel » et il a trouvé que cette personne était décédée. Quand il est revenu, l'envoyeur était aussi décédé et quand même les Chachamim ont dit que cet argent reviendrait aux héritiers de l'envoyeur. La Gemara demande comment était-il possible de dire que l'halakha est comme Rabbi Shimon Anasi, et Kamanan, voici que nous avons établi l'halakha que divrei shchiv mera kirtuvim vechim surim dami, que les paroles du mourant sont considérées comme s'ils sont écrits dans un document et comme si les choses ont été transmises. Finalement donc, une fois que ce mourant a émis sa volonté que cet argent soit transmis au destinataire en question, cet argent devrait être transmis au destinataire ou à ses héritiers. La Gemara répond, Rav Yosef Mukila Bebari. Rav Yosef interprète la Braïta comme parlant d'un cas où il s'agissait d'une personne en bonne santé. Puisque nous avons dit que celui qui dit à un émissaire emmène, ce n'est pas comme s'il a dit acquiert pour lui. Finalement, cet argent donc ne revient pas au destinataire, mais à l'envoyeur. La Gemara demande, Veha le Yorche Meshalear Kamar. Voici que Rabbi Shimon Anasi a dit que cet argent a été transmis aux héritiers de l'envoyeur. En d'autres termes, il s'agissait d'un cas où l'envoyeur était mort. Alors que, par ailleurs, nous avons établi mitzvah le kaim divrei met, il y a le mitzvah d'accomplir les dernières volontés d'un mort. Finalement, donc, cet argent devrait revenir aux héritiers du destinataire. La Gemara répond, Tane, il faudra lire différemment la Braïta, Yachzeru lemshaleach. Les Chachamim ont dit que cet argent reviendra à l'envoyeur. En d'autres termes, il s'agit d'un cas où l'envoyeur n'était pas mort, et c'est pourquoi, donc, cet argent revient à l'envoyeur. Nous avons fini ici le shiur de Gittin, d'Afiud Dalet. Par la même occasion aussi, nous avons fini le premier perek de Maseret Gittin. Nous commençons le shiur de Gittin d'Aftet Vav à la Mishnah au début du deuxième perek. Nous avons vu au début de la Maseret qu'un émissaire qui amène un acte de divorce de l'étranger en Eretz Israël, il devra faire une déclaration comme quoi ce get a été écrit et signé devant lui. Par conséquent, donc, il doit être présent au moment de l'écriture du guet et au moment de la signature des témoins. Non, la Mishnah nous dit, Hamevi get mibinatayam, l'émissaire qui aurait amené un acte de divorce de l'étranger. Mais il n'a pas été présent à toutes les étapes de l'écriture du guet. Et par conséquent, Ve'amar, et il a dit, Befana nirtav, il a déclaré comme quoi le guet a été écrit devant lui, Avallo Befana nirtam, mais le guet n'a pas été signé devant lui. Ou bien, Befana Nirtam, Avalo Befana Nirtav. Le get a été signé devant moi, mais il n'a pas été écrit devant moi. Ou bien, Befana Nirtav Kulo, ou Befana Nirtam Chetio. Ce get a été écrit entièrement devant moi, mais il n'y a un seul des témoins qui a signé devant moi. Ou bien, Befana Nirtam Chetio, Befana ou Befana Nirtam Kulo. Ou bien, la moitié du get a été écrit devant moi, mais la signature des témoins a été entièrement faite devant moi. Les deux signatures, donc, ont été faites devant cet émissaire. Pasoul, ce get n'est pas valable. Selon l'avis de Rabat, qui dit que la raison pour laquelle l'émissaire doit faire cette déclaration, parce que nous craignons que le get n'ait pas été écrit au nom du divorce de la femme, ce get devient entièrement pasoul. Selon l'avis de Rabat, qui dit que la raison pour laquelle l'émissaire doit faire cette déclaration, c'est de peur qu'on ne trouve pas de témoins pour authentifier la signature des témoins sur ce get, alors ce get ne sera pas valable tant que la signature des témoins n'a pas été authentifiée. La Mishnah continue. Echad Omer Befanai Nirtav. Si une personne dit le get a été écrit devant moi, Ve Echad Omer Befanai Nirtav, et une autre personne dit ce get a été signé devant moi, Pasoul, ce get est Pasoul. La Gemara expliquera. Shnaim omrim befanenu nirtav. S'il y a deux personnes qui disent ce get a été écrit devant nous, ve echad omer befanenu nirtam, et une troisième personne dit ce get a été signé devant moi. Pasoul, ce get est pasoul, ve Rabbi Yehuda marchir, et Rabbi Yehuda le rend valable. Echad omer befanenu nirtav. S'il y a une personne qui dit le get a été écrit devant moi, ou shnaim omrim befanenu nirtam, et deux autres personnes disent ce get a été écrit devant nous, a été signé devant nous, kasher, ce get est valable. La Gemara expliquera cette seconde partie de la Mishnah. La Gemara demande, concernant la première partie de la Mishnah, qui dit que si la déclaration n'a pas été faite entièrement parce que l'émissaire n'a pas été présent à toutes les étapes de l'écriture ou de la signature du guet, ce guet est pasoul. La Gemara demande Hatoul Amali. Pourquoi a-t-on besoin à nouveau de nous enseigner cette Mishnah? Hatanale Chadazimna. Voici que nous l'avons déjà enseigné une fois. Il s'agit de la première Mishnah de notre Maseret. Hameviget Mimdina Tayam, Tsarir Sheoma, Befana Nirtam, ou Befana Nirtam. Celui qui amène un guet de l'étranger doit déclarer que celui-ci a été écrit et signé devant lui. Si cette déclaration n'a pas été faite entièrement, le guet est pasoul. L'Agma répond, « Imehahi, si nous avions simplement enseigné la première Mishnah de la Maseret, Havamina, j'aurais pu croire, tsarir, que les Chachamim ont exigé de l'émissaire de faire cette déclaration, ve'ilo amar kasher, mais s'il n'a pas fait cette déclaration, ce guet sera quand même kasher. Kamash malan, c'est pourquoi notre Mishnah nous enseigne que si cette déclaration n'a pas pu être faite correctement, le guet est pasoul. » L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit, « Befana nirtam chetzior, befana nirtam kulo, pasoul. » Si l'émissaire déclare que la moitié du guet a été écrit devant lui et la signature des deux témoins a été faite devant lui, ce guet est pasoul. Et cela parce que il n'a pas été présent à toute l'écriture du guet. L'Agma demande, « Hey chetzio, de quelle moitié s'agit-il ? Il est ma chetzio rishon, s'il s'agit de la première moitié. » C'est-à-dire, si l'émissaire déclare avoir été présent au moment de l'écriture de la première partie du guet, puis il s'est absenté et il est revenu au moment de la signature des témoins. Alors la question se pose, pourquoi dit-on que ce guet est pasoul? Veha amar Rabbi Lazar, voici que Rabbi Lazar a dit, nous l'avons vu plus haut d'Afrey Amudbet, afilu lokatav bo elashita achat lishma, même si l'émissaire a été présent au moment de l'écriture de la première ligne, et il a pu voir donc que cette ligne a été écrite au nom du divorce de la femme, il s'agit de la première ligne où le nom du mari et de la femme et la date sont écrits. Shuvenot Tsarir, l'émissaire n'a plus besoin d'assister à l'écriture de la suite du guet. Donc finalement, s'il a été présent au moment de l'écriture de la première moitié du guet, ce guet devrait être kasher. Magma répond, Elama Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit Chetzio Acharon. Il s'agit d'un cas où l'émissaire déclare avoir été présent à l'écriture de la seconde moitié du guet. Il n'était pas présent donc au moment de l'écriture de la première ligne. Par conséquent, cette déclaration ne sera pas valable et le guet non plus. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Befanai nirtam kulo ou befanai nirtam chetzio pasoul ». Si l'émissaire déclare avoir été présent au moment de l'écriture de tout le guet, mais il n'a été présent qu'au moment de la signature d'un des témoins, ce guet aussi est pasoul. Amar Rav Chizda ajoute sur la Mishnah, va filu shnaim meidim al khatimat yad sheni, même s'il y a deux témoins qui viennent authentifier la signature du second témoin signé sur le guet, pasoul, ce guet est quand même pasoul. Maitama, pourquoi? Okulo bekiyum haguet, soit nous rendrons ce guet valable en authentifiant la signature des deux témoins comme on authentifie en général un document, Okulo betakanat chachamim, soit on rendra ce guet valable en s'appuyant sur l'institution des chachamim, en s'appuyant donc sur la déclaration de l'émissaire. Mais on ne pourra pas faire la moitié d'une manière en s'appuyant sur la déclaration de l'émissaire et l'autre moitié en authentifiant la signature comme on le fait pour un document. Et cela parce que cela peut prêter à confusion. Et on risque aussi d'authentifier un autre document de la même manière. Matkifla, Rava a objecté là-dessus. Mi ikam ide, est-ce qu'il existe un cas de ilu amar chad kasher, si l'émissaire lui-même avait déclaré connaître la signature des témoins? Et nous dirons, comme nous l'avons vu dans Daf Gimel Amud Alef, que le guet sera kasher. Donc même si l'émissaire ne déclare pas avoir été présent au moment de la signature du second témoin, mais il déclare connaître la signature de ce témoin, nous dirons que ce guet est kasher. Hashtag et katré, maintenant qu'il y a deux témoins qui viennent authentifier la signature du second témoin, pasoul, nous dirons que ce guet sera pasoul, puisqu'il n'a pas été authentifié correctement. Finalement, les deux témoins ne peuvent pas être pires que l'émissaire lui-même. Et là, c'est pourquoi Amar Rava dit un autre ridouche sur notre Mishnah.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Afilou, nous tournons la page à Daf Tet Vav Amud Bet. Hu ve'acher me'idin al khatimat yad sheni. Même si l'émissaire s'associe avec un autre témoin pour authentifier la signature du second témoin sur le get, pasoul, ce get sera pasoul. Maïtama, pourquoi? L'Agma répond, atou le'ichloufe bikiyum shtarot de alma. On risque de confondre ce cas avec l'authentification d'un autre document. Et si un tel cas se présentait concernant l'authentification d'un autre document, c'est-à-dire l'un des témoins signé sur le document est venu déclarer comme quoi la signature sur le document est la sienne. Mais il s'agit d'un cas où le second témoin est mort. Alors ce même témoin ne pourra pas s'associer avec un autre témoin pour témoigner sur la signature du second témoin. Pourquoi? Parce que Vekanafik Necheriva de Mamona Apuma de Khadsaada. Parce que si nous acceptons le témoignage du témoin qui a signé déjà sur ce document, il se trouve que les trois quarts de la somme d'argent mise en jeu par ce document sera encaissée en s'appuyant sur le témoignage de ce témoin. C'est-à-dire, il y a deux manières d'authentifier un document. Soit les deux témoins qui ont signé sur le document viennent témoigner comme quoi c'est leur signature. Donc chacun des témoins témoigne sur sa propre signature. Soit nous prenons deux témoins étrangers qui déclareront connaître la signature des témoins. Et en s'appuyant sur ce témoignage, ce document sera authentifié. Maintenant donc, quand le témoin qui a signé sur le document vient déclarer comme quoi il s'agit de sa signature, on peut considérer que la moitié du document a déjà été authentifié. Si maintenant il vient s'associer avec un autre témoin pour authentifier la seconde signature, finalement donc nous authentifions la signature du second témoin en nous appuyant sur ces deux témoins. Donc il y a encore un quart de ce document qui se trouve authentifié par le témoignage du même témoin. Or, la Torah a dit que quand nous nous appuyons sur le témoignage de deux témoins, il faudra faire en sorte que les deux témoins aient le même poids. Si le témoignage de l'un des deux témoins a plus de poids que le témoignage du second témoin, ce témoignage ne pourra pas être accepté. Par conséquent donc, dans le cas où l'une des signatures du document est authentifiée par la personne qui a signé et la seconde signature est authentifiée par cette même personne et s'associant avec un autre témoin, finalement donc il se trouve que le témoignage du premier témoin a plus de poids que le second, cette authentification donc ne sera pas acceptée. Revenons au cas de l'émissaire qui fait cette déclaration. Il est vrai que si l'émissaire lui-même déclare connaître la signature du second témoin, on peut s'appuyer sur cette déclaration et on n'a pas besoin de s'appuyer donc sur le second témoin. Mais puisque finalement le second témoignage a été aussi accepté, c'est un cas qui ressemble au cas de l'authentification d'un document de la manière que nous venons de décrire. Par conséquent donc, ce témoignage, le déclaration de l'émissaire aussi ne pourra pas être accepté. Matkif la Ravashi. Ravashi a objecté là-dessus. Mi kamide de ilumasik le ihu le khula di bura. Est-ce qu'il existe un cas où si l'émissaire avait terminé sa phrase sans adjoindre un deuxième témoin kasher, cette déclaration aurait rendu le get valable? Hashtadi ka khat beade. Si maintenant un autre témoin s'est associé à lui, pasoul, ce get deviendra pasoul. Ce n'est pas possible. Et là, c'est pourquoi Amar Ravashi dit un autre hidouche sur notre Mishnah, Afilu Omer Anihu Echeni. Même si l'émissaire déclare comme quoi lui-même c'est le second témoin qui a signé sur le get, pasoul, ce get sera pasoul. Maitama, pourquoi? Okulo Bekiyumat Get, ou bien ce get sera rendu valable en l'authentifiant de la manière qu'on authentifie un document, donc en amenant deux témoins qui connaissent la signature des témoins sur le get, ou bien si les témoins qui ont signé sur ce get viennent eux-mêmes témoigner qu'il s'agit de leur signature, ou bien ce get sera rendu valable entièrement en s'appuyant sur l'institution des Chachamim qui s'appuie sur la déclaration de l'émissaire. Dans notre cas donc, où la moitié d'une partie du guet a été rendue valable en s'appuyant sur la déclaration de l'émissaire et l'autre partie a été rendue valable par l'authentification d'une signature, ce guet sera passoul. Et cela parce que nous rendons ce guet valable par le témoignage d'un seul témoin. Ce cas risque d'être confondu donc avec le cas de l'authentification d'un document, et on risque aussi de s'appuyer même sur un seul témoin pour authentifier un document. Par contre, le cas enseigné par Afrizda, où il s'agissait d'un cas où deux témoins venaient témoigner et authentifier la signature du second témoin, il n'y a pas lieu de faire de confusion, parce que finalement, nous avons exigé deux témoins pour authentifier la signature du second témoin. Par conséquent, donc, ce guet sera kasher. Cependant, donc, dans le cas enseigné par Ravashi, où l'émissaire est le second témoin qui a signé sur le guet, il ne devra pas déclarer que c'est lui le deuxième témoin qui a signé, mais simplement dire qu'il était présent au moment de la signature des deux témoins. Alors, l'Agmara dit, Pnan, il a été enseigné dans notre Mishnah. Befanai nirtav kulo, befanai nirtam chetio, pasoul. Si l'émissaire déclare comme quoi il était présent au moment de l'écriture de tout le guet, mais il n'était présent qu'au moment de la signature d'un témoin, pasoul, ce guet sera pasoul. L'Agmara demande, ida chetio hechidami. Concernant la seconde signature, de quel cas s'agit-il? Il est madeleka de kamasid aleklal. S'il s'agit d'un cas où aucun témoin n'authentifie la signature du second témoin. Hashta echad omer befana nirtam, echad omer befana nirtam. Si déjà dans le cas enseigné plus loin dans la Mishnah, où une personne déclare avoir été présent au moment de l'écriture du guet, et une autre personne déclare avoir été présent au moment de la signature du guet, de haikamasid akula aktiva, où finalement il y a une personne qui témoigne sur toute l'écriture du guet, et le second témoigne sur toute la signature du guet, pasoul, quand même nous disons que ce guet est pasoul. Donc finalement nous disons que même s'il y a eu une présence, même s'il s'agit de deux personnes différentes, au moment de toutes les étapes de l'écriture et de la signature de ce guet, quand même nous disons que ce guet est pasoul, parce que ce n'est pas la même personne qui fait cette déclaration. Chetio mivaya, si nous avons eu une présence que pendant l'écriture du guet, et que pendant la signature d'un seul témoin, donc de la moitié des signatures de ce guet, et il n'y a pas eu de présence au moment de la seconde signature, a-t-on besoin de nous enseigner que ce guet est pasoul? Et là, donc finalement nous dirons que la Mishnah a voulu nous enseigner un chidouche. Et en fait, il s'agit d'un cas où la seconde signature a été authentifiée au Kederava, comme le cas enseigné par Rava, c'est-à-dire dans le cas où l'émissaire s'est associé avec un autre témoin pour authentifier la signature du second témoin, au Kederavashi, ou bien comme le cas enseigné par Ravashi, c'est-à-dire que l'émissaire a déclaré que c'était lui-même le second témoin qui a signé sur ce guet. Comme nous l'avons expliqué plus haut, ce sont deux cas qui peuvent être confondus avec l'authentification des autres documents. Par conséquent donc, les Chachamim auraient pu être plus stricts concernant ces cas où la Fouke Midera Frisda, on exclura le cas de Rafrizda, où il n'y a aucune raison de refuser le témoignage des deux témoins qui authentifient la seconde signature sur le guet. Par conséquent donc, si la halakha avait été comme Rav Chisda, la Mishnah aurait dû le préciser plus clairement. Amar lecha Rav Chisda, Rav Chisda te répondra, Velita amer, et selon toi qui veut dire que chaque partie de la Mishnah a un chidouche, le cas précédent enseigné par la Mishnah, Befana nirtav, avant lo Befana nirtam, le premier cas donc de la Mishnah qui nous parle d'un cas où l'émissaire aurait déclaré qu'il avait été présent au moment de l'écriture du guet et non pas au moment de la signature. L'Amali, pourquoi a-t-on besoin de nous enseigner ce cas? Parce que si déjà dans le cas où l'émissaire avait été présent au moment de la signature d'un témoin, nous disons que ce guet est pas soul, à plus forte raison s'il n'a été présent au moment d'aucune des signatures, que le guet sera pas soul, voir le Maharsha. Et là, forcément, donc, nous devons dire, Lozu Avzu Katane, que des fois, le Tana enseigne au début le plus petit chidouche, pour nous dire non seulement ce cas, donc dans le cas où l'émissaire n'a été présent au moment d'aucune des signatures, mais même dans le cas où il avait été présent au moment d'une des signatures, quand même, le guet sera pas soul. Hachanami, nous dirons aussi, Lozu Avzu Katane, que le Tana a voulu enseigner au début le plus petit chidouche. Et donc, il nous enseigne, non seulement dans le cas où l'émissaire avait été présent au moment de l'une des signatures, le guet est pas soul, mais même dans le cas où une personne témoigne avoir été présent au moment des deux signatures, mais il s'agit d'une autre personne, le guet sera aussi pas soul. En d'autres termes, l'auteur de notre Mishnah n'a voulu enseigner aucun chidouche concernant les cas enseignés par Rav Chisda, Rava ou Ravashi. Finalement donc, nous aurons aucune preuve de la Mishnah. Puisque nous avons parlé jusqu'à présent de la validation d'un acte de divorce qui se fait à moitié par l'institution des Chachamim, donc s'appuyant sur la déclaration de l'émissaire et en partie par une authentification normale, nous allons aussi citer des sujets similaires. Amar Rav Chisda, il s'agit d'Alachot de Shabbat pour créer un domaine privé, ce qu'ils appellent Reshut Hayachid. Il faut que ce domaine soit entouré d'un mur haut de dix tfachim. Rav Chisda dit, Gidud Chamisha, s'il y a un trou d'une profondeur de 5 tfachim, ou Mechitza Chamisha, et sur ce trou, il y a un mur d'une hauteur de 5 tfachim qui l'entoure. En mitztarfim, ces deux murs ne s'associent pas pour former un mur d'une hauteur de 10 tfachim. Et cela parce que vu de l'extérieur, nous n'avons qu'un mur de 5 tfachim de haut. Voir le pnei Yoshua. Achiye okulo bemchitza, à moins que ce trou soit entouré d'un mur de 10 tfachim de haut, okulo begidud, ou bien qu'il s'agisse d'un trou d'une profondeur de 10 tfachim. À ce moment-là, ce trou sera considéré comme un domaine privé. Darash Marimar. Marimar a enseigné Gidud Chamisha ou Mechitza Chamisha Mitztarfim. Un trou d'une profondeur de 5 tfachim entouré d'un mur de 5 tfachim de haut s'associe pour former un mur de 10 tfachim de haut pour considérer ce trou comme étant un domaine privé. Vehilcheta Mitztarfim. Et la halakha est qu'un trou d'une profondeur de 5 tfachim entouré d'un mur d'une hauteur de 5 tfachim s'associe pour former un mur d'une hauteur de 10 tfachim. Et nous aurons donc un domaine privé à l'intérieur de ce trou. Bae Ilfa. Ilfa a posé la question suivante. Yadaim tehorot l'chatsayim. Est-ce que les mains peuvent être purifiées à moitié? Ou en tehorot l'chatsayim? Ou bien est-ce que les mains ne peuvent pas être purifiées à moitié? C'est-à-dire, il y a des choses dont l'impureté n'est transmise que midera banane et qui ne rendent impures que les mains. C'est la raison pour laquelle Chachamim avait institué que pour consommer de la tourma, il fallait toujours se laver les mains. D'ailleurs, aujourd'hui, avant de consommer du pain, il faut aussi se laver les mains midera banane. Alors la question se pose, est-ce qu'on peut purifier les mains à moitié ou non? Alors la Gemara demande, Echidami, de quel cas s'agit-il? Il est ma de kamashu betre mirvit. Si la question se pose dans un cas où deux personnes se lavent les mains avec une quantité d'eau d'un quart de loug, c'est-à-dire il y aurait dans un ustensile un quart de loug d'eau et une personne se serait lavé les mains avec une partie de cette eau et une seconde personne veut se laver les mains avec le reste de cette eau. La question donc se poserait, est-ce que les mains peuvent être purifiées avec la moitié de la quantité réglementaire pour purifier les mains? La Gemara demande, ce n'est pas une question. Vehatnan, voici qu'il a été enseigné dans une Mishnah. Au début de Maseret Yadaim, Mervi'it Notlim La Yadaim, avec un quart de loug d'eau, on peut se laver les mains. Le'echad, pour une personne, donc une personne peut se laver les deux mains avec un quart de loug d'eau, Vafilu Le'shnaim, et même deux personnes peuvent se laver les mains avec la même quantité d'eau. Finalement donc, il peut arriver qu'une personne ait le droit de se purifier les mains, même avec la moitié de quantité d'eau réglementaire pour se laver les mains, à condition que cette eau est un reste d'eau qui a servi pour se laver les mains. Et au départ donc, il y avait dans ce récipient une quantité d'un quart de loug. Finalement, donc, la question ne se pose pas. Ve'ela de kamashe chada chada yade. Seulement, nous nous dirons que la question que Ilfa s'est posée, c'est dans le cas où une personne se lave chacune de ses mains séparément. La Gemara demande, là aussi, ce n'est pas une question. Ve'atnan, voici qu'il a été enseigné dans une Mishnah. Le Maseret Hashas explique ici qu'il s'agit d'une Braïta. Hanotel yado achat bentila. Si une personne se lave une main en versant dessus de l'eau contenue dans un récipient, ve'achat beshtifa, et la seconde main, il la trempe dans un fleuve qui contient 40 CA d'eau. Donc ça s'appelle tvila. Yadav teorot. Ces deux mains seront pures. Nous voyons donc bien que les deux mains peuvent être purifiées chacune séparément. Ve'ela, c'est pourquoi nous dirons que c'est cela la question que s'est posée Ilfa. De kamashe palga palga de ade. C'est qu'à chaque fois, il ne se lavait que la moitié de sa main. C'est-à-dire, au départ, il se lavait une première moitié de sa main, et puis, il a versé de l'eau sur la seconde moitié de sa main. Alors, la Gemara demande, quelle est la question qu'il fasse et poser? Veha amre de Berabiana. Et voici que dans le Beit HaMidrash de Rabiana, il a été enseigné. Yadaim en teorot lachatzaim. On ne peut pas purifier les mains à moitié. Il faut à chaque fois se laver une main entièrement. La Gemara répond, lo tzricha de ika mashke tofeach. S'il s'agit d'un cas où il n'a pas entièrement séché la première moitié de la main qu'il a lavé en premier, mais après l'avoir séché, sa main est quand même restée humide. Mais l'humidité restant sur sa main n'était pas suffisante pour mouiller un autre objet ou une autre main. Alors la question se pose, est-ce que le fait que la main est restée encore un peu humide suffit pour lier le lavage de la seconde moitié de la main avec le lavage de la première moitié? Et nous considérerions donc que la main a été lavée entièrement en une fois. La Gemara demande, Vichim ika mashket ofeach mayhave. Et s'il reste simplement suffisamment d'eau pour que la main soit humide, mais elle ne suffira pas pour mouiller une autre main, qu'est-ce que ça fait? Ve'atnan, voici qu'il a été enseigné dans une Mishnah, dans Taharot Perekret.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.